nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Monsieur le secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie française, Maurice Druon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans les locaux de Canal Académie, au cœur de l'Institut de France, au 23 Quai de Conti. Vous nous faites l'honneur d'être avec nous aujourd'hui pour parler de votre confrère, aujourd'hui disparu, le président Léopold Sédar Senghor, lui aussi donc membre de l'Académie française. Alors avant de parler de Léopold Sédar Senghor, pour lequel nous réalisons une semaine spéciale, qui lui est donc consacrée, je vais quand même vous présenter, si vous le permettez, alors en très peu de temps. Vous êtes monsieur Maurice Druon, bien sûr romancier, vous avez notamment reçu le prix Goncourt en 1948 pour votre roman Les Grandes Familles, et également le prix Pierre de Monaco qui récompense l'ensemble de votre œuvre, et puis plus récemment en 98, le prix Saint-Simon et en 2000, le prix Agrippa d'Aubigné. Et puis, vous avez également participé à l'écriture. Vous êtes aussi également connu pour ça. Vous avez donc participé à l'écriture des paroles du chant des partisans en 1943 avec votre oncle Joseph Kessel, le chant des partisans qui, bien sûr, deviendra l'hymne de la résistance. Et puis, bien sûr, vous êtes homme d'État. Enfin, en tout cas, vous avez exercé de nombreuses fonctions politiques et vous avez été ministre. Et en 1966, vous faites votre entrée à l'Académie française. Il y a donc 40 ans, plus juste, vous fêtez vos 40 ans à l'Académie française. Et vous avez vu arriver de nombreux académiciens à l'Académie française, donc Jean d'Ormesson, Claude Lévi-Strauss, Jean Bernard, récemment disparu également. Et puis également Léopold Sédar Senghor. Il est entré à l'Académie le 2 juin 1983. Comment avez-vous connu Léopold Sédar Senghor, monsieur Maurice Druon?
J'ai connu Léopold Sédar Senghor il y a bien longtemps, quand il a été ministre français.
Sous Edgar Faure?
Sous le gouvernement d'Edgar Faure. J'ai été invité par lui au Sénégal. Nous avons communié dans l'amour de la langue française, dont il était l'un des plus grands défenseurs, et de lui il y a cette phrase admirable: dans les décombres de la colonisation, nous avons trouvé un outil merveilleux, la langue française.
Alors justement, c'est un point commun, un premier point commun qui vous réunissait tous les deux.
Bien sûr, pas oublier qu'il a été le créateur de la francophonie.
Tout à fait.
Dès 1976, il voulait un Commonwealth à la française. Il avait lancé des invitations. Si la francophonie a existé en tant qu'entité politique, s'il y a eu l'Organisation internationale de la langue française, qui a aujourd'hui pour secrétaire général le président Abdou Diouf, successeur de Léopold Senghor, c'est bien à ce dernier que l'on doit cela. Je connaissais donc Léopold Senghor de longtemps. J'appréciais l'homme, le penseur, le poète, l'homme d'État, et je vous en reparlerai.
Alors, oui, pardon.
Et je pensais, j'estimais, qu'il devait faire partie de l'Académie française.
Alors voilà, c'est très bien, parce que c'est à cela que je voulais en venir. C'est par votre intermédiaire qu'il a pu entrer à l'Académie française?
Dès 1973, j'ai entrepris une campagne discrète mais permanente pour qu'il entre à l'Académie française. Nous avons fait partie ensemble des premiers membres de l'Académie royale du Maroc. Tous les deux, enfin, on siégeait côte à côte dans cette académie à la fois marocaine et internationale qu'avait créée le roi Hassan II. Tout cela, au cours du temps, renforçait nos liens. J'ajoute que Madame Senghor était ancienne élève des maisons d'éducation de la Légion d'honneur, comme ma propre épouse.
Cela... Encore un autre point commun, encore un lien qui vous
réunissait. Oui, encore un point commun. Donc, j'ai pensé très vite que sa place était dans la grande institution de la langue française.
Et là, il vous a fallu du temps.
Il m'a fallu beaucoup de temps parce qu'à ce moment-là, il y avait encore des préjugés.
Alors, quels préjugés ?
Ben, des préjugés de couleur et des préjugés racistes. Vous savez, l'Académie se renouvelle, mais lentement, et il y avait encore des gens de bien avant la guerre qui étaient là et avec tous leurs préjugés. Et on me disait non, un noir, pas possible.
Même s'il était grammairien, première agrégée.
Un noir, c'était pas possible.
Alors comment vous avez fait parce que...
Mon prédécesseur, comme secrétaire perpétuel, M. Jean Mistler, qui était assez réactionnaire, il faut bien le dire, y était complètement hostile. J'ai insisté. Et finalement, au bout de 10 ans, j'y suis arrivé. On a dit, bon, on a fait un comité pour le présenter, et on l'a élu, et ça a été une grande satisfaction. Il faut dire qu'à ce moment-là, c'était les débuts du gouvernement socialiste en France. 81, Mitterrand, etc. Bon. Et je me rappelle que dans l'effervescence, il y avait des socialistes qui voulaient qu'on supprime l'Académie française. Et quand on a su que Léopold Senghor, président de l'Internationale socialiste, allait y entrer, ça a tout de même refroidi les ardeurs. Et Senghor a été élu. Et il a été élu à la place de qui ? Un historien avec lequel j'étais très ami, le duc de Lévis-Mirepoix. Alors, à l'un de ses plus glorieux noms de l'histoire française, succédait le plus glorieux nom de l'histoire coloniale. Naturellement, Senghor était déjà le président du Sénégal avec les réussites qu'on savait. Pour vous dire son amour de la langue française, cet homme qui avait été universitaire, qui avait été professeur, il avait été en Cagne avec Georges Pompidou.
Tout à fait, oui.
Et qui s'aimait beaucoup, et il avait été professeur à Tours. Mais au Sénégal, à Dakar, quand il présidait le gouvernement, il y avait un grand tableau noir. Et quand il y avait un mot que les ministres pouvaient avoir de la peine à comprendre, il allait au tableau et il leur marquait l'étymologie du terme, la signification. Il restait pédagogue avec ses ministres.
Il avait encore son esprit de professeur,
ah oui,
tout en étant président.
Il était professeur, voilà. Alors il est entré à l'Académie, très discrètement d'ailleurs, il n'avait fait... Et c'était un homme qui était... comme les vrais grands hommes profondément modestes.
Alors, c'était parce qu'il était réservé ou parce qu'il sentait que peut-être qu'il y avait encore une hostilité ?
Non, pas du
l'hostilité
tout.
L'hostilité était terminée.
Pas du tout, c'était un homme qui avait une grande certitude, mais il était naturellement très bien élevé. Voilà. Et alors, il a fait naturellement, comme grammairien, partie de la commission du dictionnaire.
Alors, voilà, le
alors
deuxième
là,
angle de
je
notre
n'ai jamais vu un confrère aussi attentif, aussi sérieux, travaillant autant et aussi modeste. Il était attentif sur les questions d'orthographe, bien sûr, de ponctuation. Il était vraiment professeur de grammaire uniquement quand il était à l'Académie.
Alors peut-être que vous pouvez expliquer à nos auditeurs en quoi consiste cette commission
pour avoir la plus commission de détails. Du dictionnaire...
Vous êtes composé de 14 membres à peu près.
Et composé de 12 membres statutairement, se réunissait autrefois une heure par semaine, ce qui était très insuffisant. Quand je suis devenu secrétaire perpétuel, on a travaillé 3 heures.
Vous avez activé les choses.
Et qui a pour rôle, une fois que l'Académie, en son plénum, a travaillé sur le dictionnaire, accepter des mots nouveaux, tout d'un coup rayer des mots trop anciens, fait les définitions, car la particularité du dictionnaire de l'Académie française, c'est qu'on ne donne pas, pour exemple, des citations des grands auteurs, parce qu'ils seraient tous, pour la plupart, de l'Académie. Ce sont les académiciens qui font les exemples de tous les emplois et acceptions du terme. Alors Sangor était pour ça merveilleux. Merveilleux.
Qu'est-ce qui lui plaisait, en fait, dans le fait de faire partie de cette commission? C'est le fait de retrouver son instinct de professeur.
De travailler sur la langue, sur l'outil merveilleux. Et il avait la passion de la langue française.
Alors, vous êtes 40 membres à l'Académie
française. On est 40 membres à l'Académie, mais 12 membres de la commission du dictionnaire qui sont, comment dirais-je, l'instance supérieure. Quand il y a une incertitude, on dit on renvoie à la commission, c'est la commission qui décide. C'est la commission qui fait les dernières corrections pour les publications du dictionnaire.
Et alors, ces 12 membres, ils sont élus par...
Ils sont choisis par leurs confrères.
Par leurs confrères.
Et Sangor a été tout de suite appelé à cette commission. Le Saint des Saints, comme on dit.
Alors, revenons quelques minutes un petit peu en arrière, avant de faire partie de cette commission du dictionnaire, au moment où il devait être élu par ses futurs confrères. Je suppose qu'il y avait d'autres candidats qui briguaient, entre guillemets, le poste.
Je ne me rappelle plus. Je pense que comme il y avait procédure de présentation, il n'y a pas eu d'autres candidats, ni en tout cas de candidats importants. On lui a ouvert les portes, enfin.
Quand il est arrivé à l'Académie française, quels ont été ses premiers actes en tant qu'académicien?
Il s'est assis à sa place, à la place qu'on lui avait désignée, et puis il s'est tu pendant longtemps. Il a compris, il s'est mis dans les usages. Et petit à petit, il est intervenu, et toujours avec un grand bon sens et une grande finesse.
Alors, quel était l'impact, on vient de le voir en France, mais au Sénégal, est-ce que vous savez l'impact que ça a eu?
Ça a été le bonheur, n'est-ce pas? Ça a été le bonheur. Je me demande si ce n'est pas le titre auquel il était le plus attaché. D'être membre de l'Académie française.
Plus que président du Sénégal?
Peut-être. Il avait conduit son pays à l'indépendance, il l'avait remarquablement dirigé. Alors, Sangor est un extraordinaire exemple d'homme multiple. Et le poète était naturellement un grand poète. Un grand poète qui a traduit les rythmes de l'Afrique en français. Il a enrichi la poésie française des rythmes africains, des images africaines et de ce qui était sa culture ancestrale et enfantine. Le second aspect, c'est le penseur. Le penseur, il était un esprit philosophique, et c'est lui qui a eu le mot, l'idée, et en lui donnant un contenu, de la civilisation, de l'universel.
Eh bien, c'est impeccable, parce que c'est ce que je venais d'écrire sur ma feuille pour en venir à ce sujet.
Eh
la
bien,
civilisation
écoutez,
de l'universel, la culture de l'universel.
La culture universelle. Eh bien, si vous le voulez bien, dans quelques instants, on en parlera.
Eh bien, à tout de suite, Monsieur Maurice Druon. On marque une courte pause, on se retrouve quelques minutes après. Merci.
L'histoire des hommes, l'histoire des sociétés, l'histoire des mentalités, l'histoire des lieux, l'histoire des événements. C'est un jour dans l'histoire, en direct ou en médiathèque, sur Canal Académie.
Retour à notre émission Focus, en compagnie du secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie française, Monsieur Maurice Druon. Maurice Druon, on vient de se quitter en évoquant, de manière très elliptique, la civilisation de l'universel. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots?
La civilisation de l'universel. Et c'était une idée à laquelle Léopold Sangor était extrêmement attaché. Il en était le créateur. Il était l'exemple du brassage des cultures, du mélange des cultures. Et il disait, il faisait confiance pour l'avenir du monde au métissage. Je dois dire que personnellement, je refuse un petit peu le mot métissage parce que le mot métis a une petite connotation péjorative.
Ah, vous trouvez ?
Et je dirais, moi, tissage.
Tissage.
Le tissage des civilisations, c'est en effet ce qui fait l'étoffe la plus somptueuse de l'esprit humain. Quand on connaît la langue, la culture de l'autre, on ne peut plus être vraiment son ennemi. Aujourd'hui, le danger, et cela, Senghor avait prévu, est dans, je dirais, la monoculture. Nous avons, et ces temps-ci le prouvent, un risque par la mondialisation, d'uniformisation des cultures par les produits et sous-produits de la culture américaine qui sont vendus partout. Ce qui risque de créer, justement, une uniformité. Une uniformité, c'est une situation de mort. On n'a plus rien à échanger. Le mouvement des idées se fait par les échanges. Si nous sommes tous pareils, il n'y a plus de progrès. Et je dirais même qu'il n'y a plus de joie à vivre. Alors, l'autre danger, qui est également celui de notre temps, ce sont les adeptes d'une seule culture, et même d'un petit morceau de leur culture, ce qui fait les fanatiques, les fondamentalistes et les terroristes. Donc nous sommes entre ces deux extrêmes. La civilisation de l'universel, c'est justement le tissage qui empêche ces deux dangers.
Et un tissage sans agressivité.
Sans agressivité, il est difficile, quand on connaît les poètes d'un autre pays, d'être agressif envers lui.
Est-ce que la civilisation de l'universel, comme oui. vous soulignez si bien, était bien acceptée à l'Académie française, dans le sens où à l'Académie française, on essaie de restituer les valeurs...
L'Académie française, vous savez, a toujours accueilli des gens venant d'autres cultures. Et regardez, Ionesco, roumain, Troya, russe. Et vous avez Obaldia, panaméen. Vous avez Bianciotti, argentin, d'origine italienne. Voyez comme nous sommes très largement ouverts. Très largement ouverts. Il y a toujours deux mouvements dans cette institution classique. Richelieu, le fondateur, vieille famille aux racines enfoncées dans la terre de France. Et puis, il n'a pas été de l'Académie, mais il était à côté et il a fondé la bibliothèque qui est chez nous, Mazarin. Ce diplomate pouvait choisir n'importe qui. Il a choisi la France. Il a été encore plus patriote que les Français. Donc, Senghor a apporté un sang neuf dans l'Académie, c'est sûr. Alors, ce poète, ce penseur, était un homme d'État remarquable. La manière dont il a gouverné le Sénégal est exemplaire.
En fait, il a exercé et des fonctions au Sénégal et des fonctions en France. Enfin, en France au départ, au Sénégal
oui,
ensuite.
Oui, c'est ça. Mais si quelqu'un a eu le sens de la démocratie, c'est bien lui. Et il a surtout donné un exemple extraordinaire, c'est de quitter le pouvoir volontairement.
Tout à fait, puisqu'en 1980...
Une fois qu'il avait désigné son successeur. Et ça, c'est un modèle peu suivi pour toute l'Afrique. Vous comprenez, les dictateurs, les roitelets qui s'accrochent à leur pouvoir, qui font des fortunes, etc., c'est le contraire de Senghor.
Mais c'est ce qui lui a valu d'être respecté.
J'ai été reçu souvent chez lui, au Sénégal. J'ai vu comment il vivait. Simplement, ne pensant qu'à ses responsabilités et détaché de tout ce qui était personnel. un exemple superbe. Vous savez, on parle Cincinnatus qui retourne à sa charrue. Eh bien, lui, il est retourné à sa plume. Et il est retourné à sa plume, dans sa normandité, comme il disait. Après avoir eu sa négritude, il a eu sa normandité. Et il travaillait, il écrivait, etc., comme sans nostalgie aucune du pouvoir.
Oui, puisque certains intellectuels disaient que finalement, il était tombé dans la politique par hasard, finalement. Que ça l'intéressait peut-être un peu moins que l'écriture.
Ce n'était pas par hasard. Je vais vous dire, c'est parce que c'est une chose qui arrive rarement, mais c'est parce qu'il était le meilleur de son pays. C'est rare, c'est ce qu'il faudrait, c'est que ce soit toujours le meilleur du pays qui en devienne le chef d'État. Eh bien, c'était lui le meilleur du pays.
En 1980, comme vous le disiez, il démissionne de sa fonction, oui. de son mandat. Il n'est donc plus président. À partir de ce moment-là, débute quand même une période où il va être assez seul. Il va venir en France, mais petit à petit, son entourage va quand même s'éclaircir,
oui, Il n'a jamais été seul.
Et son entourage va se clairsemer.
Peut-être, mais tout de même, vous savez, il était toujours proche de son pays. Son pays était toujours proche de lui. On lui envoyait toujours des émissaires.
On ne lui reprochait pas de quitter le Sénégal pour la France, s'installant en Normandie.
Non, je ne pense pas. Et c'était sage, d'ailleurs. C'était sage. Vous comprenez, un homme qui a exercé de telles fonctions et qui les a exercées si bien, et qui est la référence, s'il reste là, il est gênant pour son successeur.
Vous pensez qu'il aurait gêné justement son successeur, qu'il l'avait désigné justement,
Abdou Diouf, qui est un homme remarquable. Dans l'esprit public, oui, il peut toujours gêner, d'autant plus que les décisions peuvent ne pas être les mêmes, vous comprenez, les tempéraments sont très différents, de même que les physiques. Sangor était petit et le président Abdou Diouf...
Grand et longiligne,
etc. Alors le président Abdou Diouf fait un travail admirable pour la langue française.
Il est secrétaire général de
l'Organisation internationale francophone. Mmh. Et vraiment, nous lui devons beaucoup. Je vais vous dire, nous lui devons tellement que l'Académie française lui a décerné le Grand Prix de la francophonie. Il est le seul chef d'État pour qui nous l'ayons fait. Tous les autres, ce sont des savants, ce sont des écrivains. Lui, chef d'État, on l'a fait Grand Prix de la francophonie.
Qu'est-ce qu'il reste de Léopold Sédar Senghor aujourd'hui à l'Académie française?
Qu'est-ce qu'il reste? Son souvenir, comme celui d'un grand académicien, d'un grand homme. Dans l'histoire du siècle, il sera une des figures les plus hautes de l'Académie, avec Lévi-Strauss, avec Jean Bernard... qui vient de disparaître, de ces hommes qui marquent l'Académie, qui fait partie des grandes figures. Vous savez, l'Académie française, pour moi, et c'est ainsi dans cet esprit que je l'ai dirigé pendant 15 ans, pour moi, c'est la grande façade de la France. Et il faut que des superbes figures apparaissent aux fenêtres.
Et les figures, en l'occurrence, Senghor
est une de ces figures exemplaires qui sont l'honneur de la France.
Quelle est l'image que vous gardez de lui?
De lui?
Oui.
Oh, l'image d'un des meilleurs hommes que j'ai connus. Voilà.
Eh bien, merci, monsieur le secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie française Maurice Druon. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis. Retrouvez cette émission téléchargeable gratuitement sur Internet. À très bientôt. Au revoir.